Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local où aujourd'hui on va aller faire un tour au centre de zoothérapie qui a été créé il y a 2 ans par Laura Croissant. Il s'appelle Terravie et il est basé au Bourgneuf-la-Forêt. Il s'adresse effectivement aux adolescents, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées aussi qui peuvent venir y faire un court séjour, pourquoi pas même passer une après-midi. Et l'été, elle reçoit aussi des gens en effet en séjour, elle propose aussi en gîte. Et en tout cas, tout ça c'est autour de la médiation animale, puisque tout autour, elle nous le décrira, hein, son gîte, tout autour on voit tous les animaux de la ferme, j'allais dire. Alors c'est pas une ferme, mais en tout cas les animaux qui sont justement les compagnons des personnes qui viennent, en tout cas pour la médiation animale. Donc on vous proposera cette balade un petit peu avec en longueur, justement en entendant aussi des bénéficiaires, en entendant Laura Croissant qui a fondé ce centre-là. Et puis nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, on retrouvera l'agenda de ce week-end et de la semaine prochaine, puisque effectivement, on est vendredi, donc l'idée c'est de vous donner un peu des idées pour ce week-end et la semaine prochaine. Et nous, donc effectivement aussi, nous sommes vendredi. Et donc du coup, on va regarder ce qu'il y a à la une du Haut Anjou. Le Haut Anjou, en effet, qui à la une aujourd'hui vous propose de retrouver la belle histoire de Bernard Planchin, un habitant de Château-Gontier qui a retrouvé son compagnon de combat après 62 ans de recherche, puisqu'ils étaient ensemble, en Algérie. Véritable compagnon d'armes, il n'avait plus de nouvelles de Michel depuis mai 1961. Et à force d'enquêter, Bernard Planchin l'a retrouvé dans la Sarthe. Les retrouvailles ont eu lieu en mars dernier, avec beaucoup de joie et d'émotion, dit-il, et une promesse, évidemment, ne pas attendre 62 ans pour se revoir. Toujours à Château-Gontier, le duc des Chauvières est à vendre, même si les propriétaires Dominique et Marie-Annick Maillet assurent bien cet été leur 19e saison. Ils cherchent un repreneur pour la suite, à la fois du bateau sur la Mayenne et du petit train touristique, avec une vente prévue en mars ou en avril 2024. Alors là, on part d'un autre bout du département, à Cran qui se met au ballon ovale, puisque le club de Château-Gontier ouvre une antenne dans la commune pour les 6-14 ans, avec, comme l'espère le club, un petit effet Coupe du Monde de rugby qui devrait ramener des licenciés après le mois de septembre prochain, Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France. D'ici là, 2 séances découvertes gratuites sont proposées le mercredi 21 juin et le vendredi 23 juin au Stade du Pin de 18h à 19h30. Et ce ne sont bien sûr que 3 des infos que vous pouvez retrouver dans le Haut Anjou de ce jour dans votre hebdomadaire disponible en kiosque depuis ce matin. Et puis comme je vous le disais au tout début de cette émission, on va passer au format un petit peu plus long qu'on retrouve une fois tous les 15 jours, intervalle un peu irrégulier, je vous l'accorde. En tout cas, un format en balade, et là, en l'occurrence, en balade au centre de zoothérapie Terravie, au Bourgneuf-la-Forêt, qui a ouvert il y a quasiment 2 ans maintenant, une initiative, un projet porté par Laura Croissant, qui va nous expliquer justement pourquoi avoir ouvert ce centre de zoothérapie et comment, en fait, le contact avec les animaux, le fait de s'en occuper, ça leur permet de se sentir mieux aussi. Et puis vous entendrez les retours, en tout cas les impressions de 2 bénéficiaires qui étaient là lors de mon reportage. Et donc justement, on y va tout de suite en pleine nature, hein, puisqu'on est vraiment au milieu des animaux et aussi au milieu des végétaux, au milieu de la forêt en tout cas, dans un lieu assez calme.
Alors il y a du pissenlit, vous savez, la fleur après elle devient une boule avec plein de petits, vous savez quand on souffle,
ouais.
Là, ça c'est du pissenlit, sauf que c'est la fleur quand elle a fini, après elle devient une petite boule, on souffle.
C'est ça.
Ouais. Et si vous trouvez ça, vous pouvez ramasser.
Bonjour, donc moi c'est Laura, je suis fondatrice du centre d'accueil en zoothérapie Terravie, qui est donc situé au Bourgneuf-la-Forêt, et maintenant ça fait 2 ans qu'il existe.
Créé il y a 2 ans, c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qui en a été à l'origine? Quel a été votre parcours peut-être avant la création du centre en tant que tel?
Alors, mon parcours, j'ai été formée dans le secteur médico-social, et j'ai aussi été formée en médiation animale. Et donc avec plusieurs expériences auprès de personnes en situation de handicap et aussi d'ados en difficulté ou d'délinquants qui m'ont amenée aujourd'hui à créer mon espace et mon lieu et surtout à mener à bien ma passion auprès des animaux et avec la rencontre avec le public.
Et donc vous vous êtes dit justement on va essayer d'allier les deux avec ce centre. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres centres qui existaient déjà ou là vraiment vous vous êtes dit on va faire quelque chose vraiment comme je l'imagine à mon image et pas forcément calqué sur d'autres choses qui existent?
Alors c'est une vraie question parce qu'en fait c'est quelque chose que je m'étais pas posé. Non, j'ai créé quelque chose qui moi me passionnait. Par exemple les séjours, c'est pas forcément des choses qu'on voit. L'accueil du jour, c'était plutôt sur des temps à l'heure. Moi c'était important que ce soit rythmé, on va dire. Non, c'est vraiment conçu de mes propres mains, si on peut dire, de A à Z, autant la construction que la partie un peu plus théorique.
C'est vrai que là, on est à la radio, donc par définition, on ne va pas voir avec nos yeux. Mais si vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi il ressemble, votre centre ici au Bourgneuf-la-Forêt.
Donc, il est situé sur 3 hectares. Donc, il y a vraiment, on est vraiment entouré de verdure entre un petit taillis, un étang et le logement qui est donc tout en bois. Qui fait 100 mètres carrés et ça commence doucement là, mais il va y avoir l'aménagement d'un sous-sol de 100 mètres carrés pour refaire une pièce d'accueil de jour ou d'activité plutôt et pouvoir avoir un lieu qui soit accessible pour les fauteuils et les animaux en fait. Donc là, il y aura une plateforme de crowdfunding qui sera mise en ligne normalement la semaine prochaine.
Au niveau des animaux qu'on peut trouver ici, quels sont-ils ?
Alors, il y a une vingtaine d'animaux. Donc, c'est pour la plupart des animaux de refuge que j'ai en fait depuis l'âge de mes 17 ans. Pour beaucoup, après, il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Donc, il y a 2 chevaux, 2 moutons, 7 chèvres, des poules et un coq. Des lapins, cochons d'Inde, chinchillas, chiens, chats. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Et après, ouais, effectivement, il y a tous les animaux sauvages qui se promènent, mais c'est autre chose. Pour la majorité, je les avais déjà depuis un moment. C'est vrai que c'est important de bien connaître ces animaux et de comprendre leur comportement, s'ils se sentent bien, mal, par leur posture, par leurs oreilles. Et ça, on peut le savoir qu'en les connaissant.
Tout ça, c'est aussi pour accueillir des personnes, bien sûr, ici. Quel peut être, en tout cas, le profil des personnes que vous accueillez ici au centre de zoothérapie ?
Alors, les profils, en fait, c'est très différent. J'avais à cœur de faire de la mixité sociale pour justement pas reproduire les autres lieux où ça peut être que des personnes âgées, que des personnes en situation de handicap. Même si aujourd'hui, il y a quand même, ça s'ouvre, il y a de plus en plus d'activités intergénérationnelles. Mais pour moi, ici, c'était important que chacun vienne d'une structure différente. Et donc, il y a autant des enfants, ados, que des adultes. Aujourd'hui, j'ai très peu de personnes âgées, mais j'en ai quand même.
Donc, effectivement, qui viennent avec des demandes précises ou pas forcément, c'est aussi le contact avec l'animal. Et vous savez, en général, pourquoi elles viennent ou pas forcément, quand vous les recevez pour la première fois?
En général, ils viennent avec une demande plutôt spécifique, du travail sur la sociabilisation, du travail sur de l'autonomie, du travail tout simplement sur du bien-être, sur des aspects cognitifs, affectifs, enfin voilà, c'est assez large.
Vous savez, le petit Blanc-Neige, c'est blanc, Blanche, elle est dans le champ.
Ah oui.
Venez voir. Voilà. Comment ?
C'est plus gros.
Ouais.
M'occuper de Lolita. Une jument. Donner à manger, me brosser, faire des câlins. Ça fait depuis longtemps que je m'occupe des chevaux. Quand j'étais quelque part, en fait, il n'y avait que des chevaux, alors je m'occupais. Je voyais jamais que quelqu'un naisse. J'aime bien les chiens chez là. Les chiens, les poissons. Bon, en fait, tous les animaux que je croise. Même les loups. Même les serpents, les chiens, les chats, bah ça peut. Dans la forêt, c'est sympa parce que j'adore les Laura, j'adore qui, mais j'adore tout le monde en fait qui est ici.
Les lapins, les chevaux, Lolita. Quand j'étais enfin le cheval, j'étais brossé. Le cheval, c'est moi dedans. Les lapins, j'adore. Ça mange de la salade. Dans les latures, moi j'aime bien. C'est pour moi, c'est un tom tom. Et puis moi, ça me plaît. Pour ici, c'est bien. Pour moi, je dirais oui.
Que ça permet justement ce contact avec les animaux. Est-ce que vous avez quelques exemples sans citer de nom, mais pour qu'on puisse s'imaginer un peu votre quotidien en fait?
J'ai plusieurs exemples en tête. Par exemple, ce qui va être le plus facile à comprendre, ça va être sur une, une personne âgée où il va y avoir des troubles de la mémoire, où on va en fait stimuler les sens, mais donc par le toucher, par le regard, par un peu tout ce qui nous entoure. Et on va aussi aller faire, avec des jeux de cartes des animaux par exemple, faire des mémories, faire vraiment le but c'est de stimuler les fonctions en fait. Un adolescent où on va être en recherche d'autonomie, ça peut être par exemple le mobiliser. Donc souvent les adolescents, ils restent quand même sur un mois en non-stop. Mais ça dépend. Hein, dans ce cas-là, en tout cas, où on va aller travailler donc, le fait qu'il fasse de lui-même, par exemple, aller nourrir les animaux, aller, avec un regard bien sûr, mais de lui montrer que voilà, il est capable. Et il y a aussi tout l'aspect quand il reste longtemps comme ça. Donc il n'y a pas que les animaux, mais il y a aussi l'aspect du quotidien, donc les repas qu'au début on va faire ensemble et après il va poursuivre tout seul. C'est très large. Des fois il peut y avoir des angoisses nocturnes et ça peut arriver que les chiens viennent dormir dans le logement pour apaiser tout ça. Enfin, c'était vraiment un outil formidable.
J'ai bien compris que vous êtes entourée d'animaux depuis longtemps, mais de là à ce que ça fasse partie de votre activité, là pour le coup, partie intégrante de votre activité professionnelle aussi, et tous les bienfaits que ça peut avoir, ce que vous disiez. Ça, vous en étiez déjà convaincu, ou il y a eu vraiment, il s'est passé une rencontre, quelque chose, vous avez dit, ah là, ça, on peut aller vers ça.
Non, j'étais déjà convaincue, parce que j'ai toujours été baignée dedans, donc on est nous-mêmes les bénéficiaires, on va dire. Du contact avec les animaux, qui sont sans jugement, qui sont doux, qui sont... Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de déclic. Après, la chose que je pourrais dire, que je n'avais pas forcément imaginé au début de mon installation, je m'étais plutôt dit, par exemple, on va travailler la motricité avec des parcours avec le chien. Enfin, voilà, je m'étais vraiment dit... tel animal va plutôt servir et finalement c'est pas ce qui se passe, c'est vraiment la relation que va créer la personne avec l'animal qui va fonctionner, donc je vais choisir l'animal que eux-mêmes ont choisi et je vais décliner en fonction de mes activités.
Est-ce que ça arrive aussi que certains viennent en ayant, puisque vous l'avez dit, il y a plusieurs animaux, en ayant une appréhension avec certains, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'ils aiment bien les chiens, mais que par contre les chevaux, ils en ont un peu peur ou pas, et si c'est le cas, comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors oui, ça peut arriver, où ils ont par exemple peur que des chiens, ou que... comment ça se passe? On y va au fur et à mesure, il les voit derrière le grillage. Après, peut-être qu'il les voit un peu plus de près avec la laisse, s'ils sont d'accord, hein, bien sûr, parce que sinon, on ne fait pas du tout. Je pense à un jeune qui est venu récemment où il disait qu'il ne voulait pas du tout voir les chiens et finalement, on est parti en balade. Il était de loin et à la fin, il a fini par tenir la laisse. On n'est pas sûr de la vraie phobie, mais où il peut y avoir une petite appréhension et... Et voilà, donc oui, non, ça vient au fur et à mesure. Et puis, souvent, on a peur quand on ne connaît pas, mais une fois qu'on connaît, ça enlève quand même certains poids, si on peut dire comme ça.
Est-ce que quelqu'un veut remplir l'eau tant qu'on y est, parce qu'ils n'ont plus d'eau?
Là, Mimi, oh. Tiens. Elle veut les manger?
Oui.
Vous avez vu comment ils ont grandi?
Oui.
Ouais, ils se débrouillent tout seuls, là, comme des loins.
Là, dans ce que vous dites aussi, c'est l'importance... du temps, globalement, du temps passé aussi auprès des animaux, du temps passé avec vous sur l'accompagnement. Ça veut dire que les personnes que vous voyez, c'est rare que vous les voyez juste pour une heure et demie. En général, c'est des rendez-vous réguliers ou même carrément un mois comme l'adolescent dont vous parliez.
Alors, tout ce qui concerne l'accueil de jour, en général, c'est quand même avec une répétition. Comme ça, on voit l'évolution. Donc, des fois, ils viennent toutes les semaines, des fois tous les 15 jours sur des journées, sur des demi-journées. Après, c'est arrivé que j'ai des demandes pour des groupes pour une heure. Donc là, ils venaient avec leurs éducateurs sur une heure et leur groupe constitué. Là, dans le cadre, moi j'appelle ça plutôt de l'animation. Dans ce cadre-là, je refuse pas, mais je le fais quand même, quoi.
pour les personnes comme ça que vous voyez régulièrement, donc la majorité, vous voyez leur progrès aussi, j'imagine, et le fait de à chaque fois pouvoir aller un petit peu plus loin.
Alors effectivement, oui, on voit les progrès et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de les voir sourire ou quand malheureusement ça s'arrête pour X raisons, de voir qu'ils ont un petit peu le pincement au cœur, de se dire bah non, c'est fini. Enfin voilà, donc c'est appréciable de voir de voir que ça fonctionne.
Et ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont toujours, qui viennent encore vous voir régulièrement depuis les débuts, en fait, que finalement vous avez suivi depuis là les 2 ans du centre ?
Alors oui, il y a pour plusieurs personnes, il y a plusieurs profils qui viennent depuis le début. Notamment, je pense à une personne trisomique où on a même augmenté les temps, en fait. C'est varié, mais pour des personnes où il n'y a aucune activité en semaine, ça peut être très bénéfique et le suivi, il est important, quoi. Il est important dans le sens où ça fait des activités au quotidien, ça crée en fait... le fait d'avoir un planning vide dans une semaine, ça peut être frustrant. Alors que s'il sait que tel jour et tel jour, il vient ici pour faire les activités, il sait où il va, il sait ce qu'il va faire. Ça aide à structurer la semaine, ça aide au quotidien, dans une année, à poursuivre et à améliorer en fait, ses capacités, telles qu'elles soient, hein, c'est très varié.
Voilà. Si on parle plus des animaux, donc j'ai bien compris que vous les connaissiez depuis longtemps, est-ce que ça demande certaines qualités quand même, même pour eux, pour pouvoir justement qu'il y ait ces activités, ces moments de partage, où finalement, j'ai envie de dire, si on connaît bien ces animaux, peu importe leur profil, leur personnalité, ça peut dans tous les cas être bénéfique.
Alors, pour l'activité, je dirais que si, il faut quand même que l'animal s'y prête, qu'il ait le côté sociable, ce qui est le plus important, qu'il ait envie d'aller, que ce ne soit pas une contrainte pour lui. Je prends un exemple d'un âne qu'on m'avait proposé, qui avait très peur de l'humain et qui pouvait être dangereux. Là, clairement, ce n'est pas un animal qu'on peut mettre en contact avec l'humain, quoi. Enfin, pas pour ce que je vais rechercher en tout cas. Donc oui, il faut que l'animal soit plutôt posé, câlin. Mais après, tout est possible en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Il y a toujours des prérequis et des préférences, mais c'est à nous de choisir et de se dire bah, si pour cette activité c'est possible ou non, c'est pas possible, quoi.
Est-ce qu'il y a vraiment des accompagnements, des activités que vous proposez plus fréquemment que d'autres hein, en disant ça, je sais que globalement sur ce profil, ça peut fonctionner de proposer telle activité ou pas forcément.
Alors oui, oui parce qu'en fait, pour beaucoup, ils recherchent le contact direct avec l'animal. Donc prendre soin de l'animal, tout simplement le brosser, lui donner à manger. Donc ça, oui, ça fonctionne pour beaucoup. Après, on ne fait pas que ça sur une journée ou sur... Mais ça, c'est sûr qu'en fait, ils apprécient.
À la cage ? Ouais, super. Allez-y, attendez, rentrez bien votre main. Parce que sinon, ils vont vouloir sortir. Allez-y, je me décale.
J'ai peur.
Vous avez peur ? Bah, vous posez juste par terre, alors, si vous voulez.
Oui.
Voilà, très bien. Vous avez vu, ils sont tous cotes, hein.
Et si vous souhaitez contacter en effet Laura Croissant par rapport, pour en savoir peut-être un peu plus aussi sur son activité de zoothérapeute qu'on vous a fait découvrir là par bribes, eh bien vous pouvez la contacter au 07 81 09 98 68 ou bien par mail à accueil.theravie@gmail.com. Sachant qu'il y a tout un moment de l'été où elle reçoit aussi beaucoup en séjour pendant un mois. On va justement voir un petit peu ce qui se cache derrière le terme de zoothérapie, en tout cas vu par notre stagiaire Héloïse, ce sera d'ici quelques minutes le temps d'écouter Bambina de Vampire Weekend. No time to discuss it. Can't speak when the waves reach our house upon the dunes. Time cannot be trusted when the police come. They always come.
wooden arena. I see you when the violence ends for na cha cha bambina. No signs of injustice. Ciao, ciao, bambina. My Christian heart cannot withstand the thundering arena. I see you when the violence ends. For now, ciao, ciao, bambina.
Merci, c'était Vampire Weekend. Je dis merci parce que oui, aujourd'hui, on est plusieurs en studio. Joël avec nous pour l'aide technique, évidemment, très précieuse. Et puis aussi... Héloïse qui est avec nous en studio. Bonjour Héloïse.
Bonjour Marie.
Et alors Héloïse, tu as bien écouté tout le reportage autour du centre de zoothérapie au Bourgneuf-la-Forêt. Et justement, tu t'es pas mal renseignée sur la zoothérapie, une pratique que tu ne connaissais pas et qui a suscité plusieurs interrogations de ta part.
Alors oui, en effet Marie, je me suis beaucoup renseignée sur cette pratique totalement inconnue pour ma part. Et en effet, comme on l'a dit, les études scientifiques ont démontré que la zoothérapie avait de nombreux bienfaits. Réduction du stress, de la pression artérielle, du sentiment de solitude, notamment chez les personnes âgées, contribution au bien-être psychologique, à la bonne humeur, bref, on l'a dit, la zoothérapie, c'est la vie. Bon, et alors Marie, après toutes ces recherches, j'ai compris. Mais oui, c'était évident. Si toutes ces mamies décident de prendre ces vieux caniches-là, qui, entre nous, ressemblent plus à un ragondin qu'à n'importe quelle espèce de canidé, ce n'est pas parce qu'elles adorent promener des serpillères. Non, non, non. Mesdames et messieurs, c'est juste une question de pression artérielle. Et oui, avec la montée en puissance de l'utilisation de produits naturels, du bio et tout le tralala, aujourd'hui, c'est démodé, les diurétiques. À nous, les caniches! Maintenant, les remèdes miracles de grand-mère, c'est plus du tout un mélange ignoble de cognac, de citron pressé, de gingembre moulu, de jus de chaussette à conserver au frais de préférence d'ailleurs. Non, rien à voir. Maintenant, on se refile les clébards de génération en génération pour gérer nos problèmes d'intestin. Et c'est plus efficace, parole de mamie. Bon, mis à part ça, chers auditeurs, je vais quand même vous retracer un petit historique de la zoothérapie parce que son apparition est quand même assez cocasse. On doit cette pratique à l'italienne Florence Nightingale, désolée pour la prononciation, écrivaine, infirmière, statisticienne, scientifique, bref, je ne vais pas vous faire toute sa page Wikipédia, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle était brillante et tout aussi célèbre que la reine Victoria elle-même durant tout le 19e siècle au Royaume-Uni. Elle démocratise donc cette pratique au cours de la guerre de Crimée, où elle est infirmière, et ce, en utilisant une tortue comme moyen d'apaiser les plus grands blessés, puisqu'elle dit avoir vite compris le pouvoir thérapeutique de nos amis les animaux. Bon, pause, on a compris la démarche, merci Florence, mais tu vas nous dire que ce qui s'apparente plus à un gros galet qu'à un être vivant, désolé de te le dire, est capable de faire diminuer le moindre signe d'anxiété ? Non, alors dans ces cas-là, la vraie question c'est pourquoi on n'utilise pas juste un vieux caillou, on l'appelle Bernard, et puis ça nous fait relâcher la pression. Bon, tu l'auras compris Marie, la zoothérapie suscite plein de questions en moi, même si c'est vrai, je te cache pas, que quand je regarde le chat du voisin pisser dans ma pelouse que j'ai fait refaite l'été dernier, bon, finalement, au fond, mais bien au fond de moi, je vous rassure quand même, bah, je peux pas m'empêcher de me dire que s'il a choisi ma pelouse, il a choisi ma pelouse avec ses pâquerettes et ses mauvaises herbes, avec mes qualités et mes défauts finalement. Alors je pardonne, et je tenais quand même à remercier ces petits et gros animaux qui animent et adoucissent notre quotidien. D'ailleurs, on le rappelle, la zoothérapie permet de nous sentir mieux, oui, mais ne guérit pas forcément. Je vous rassure, hein, posséder un poisson rouge n'aura pas l'effet d'un vaccin contre la grippe, je vous vois venir. Et puis Marie, l'émergence de cette pratique dans notre département n'est pas un hasard. Bah oui, dans un désert médical comme la Mayenne, c'est peut-être aussi un message caché. Alors, chers auditeurs ou étudiants du secteur médical, on recrute. Et puis ça urge, hein, s'il vous plaît.
Maintenant, même les animaux sont acceptés. Alors, pour des questions évidentes...
Le petit Gérard, chirurgien urgentiste, est attendu à l'accueil du centre hospitalier de Laval. Bon, bref, Marie, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que si vous vous sentez patraque, que votre mec vient de vous plaquer, ou que vous êtes juste relou, hein, ça marche aussi, eh ben prenez un chien, et ça ira mieux. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Allez, gros bisous.
Merci beaucoup Héloïse, quelle première chronique, bravo, bravo, bravo. Et évidemment, on te retrouvera très vite, certainement la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique inspirante, elle aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Et on poursuit et termine notre feuilleton justement avant la deuxième nuit du handicap demain à Laval. Feuilleton réalisé avec Radio Fidélité Mayenne. Et ce cinquième et dernier épisode est signé Emmanuel Blois qui a interrogé le champion de paradressage Vladimir Vinchon.
Nous finissons cette série de dossiers du jour consacrés au handicap avec un sportif, Vladimir Vinchon, membre de l'équipe de France de paradressage qui vise les JO de Paris, ni plus ni moins, en 2024. Un parcours jalonné d'obstacles en dehors de la piste. Vladimir Vinchon, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelques mots pour vous présenter en bref.
Oui, écoutez, je suis domicilié à Huillé, hein, donc en Mayenne. Je fais partie de la team Mayenne également. Je suis employé de l'entreprise Enedis, j'ai 49 ans. Et marié et deux enfants.
Vous êtes né dans l'Aisne, hein, c'est ça, en 1974?
C'est bien ça, je suis né dans l'Aisne et j'en suis parti même assez rapidement, mais je suis effectivement natif de la Picardie.
Le sport hippique a toujours été une passion chez vous, ça a commencé très tôt.
Oui, bien sûr, le sport hippique a été une vraie passion que j'ai découvert à l'âge de 8 ans. Et puis j'en ai vite fait, en tout cas rapidement, fait mon allié et j'ai vécu pour ma passion.
Et non sans succès d'ailleurs, puisque vous avez commencé à gagner quelques courses.
Oui, bien sûr, j'ai commencé à gagner quelques courses et puis ça m'a fait aussi beaucoup voyager à travers la France et l'Europe et puis chez différents entraîneurs de l'ouest au sud-ouest de la France. Donc ce qui m'a fait très rapidement progresser, grandir à tout point de vue.
Et malheureusement, cette carrière prometteuse a eu une interruption à cause d'un accident le 1er septembre 1994. C'était d'ailleurs au lendemain d'une course en Belgique que le diagnostic a été terrible. Il fallait amputer la jambe droite. C'était la fin d'un rêve pour vous ?
C'était la fin d'un rêve, oui. Alors c'était surtout la fin d'une belle carrière prometteuse. Vivre de sa passion aujourd'hui, tout le monde n'en a pas la chance. Pour moi, c'était le cas. Et puis, écoutez, au vu de ce que je vis aujourd'hui, ça peut-être serait un mal pour un bien.
On en reparlera parce que je crois que derrière votre expérience, vous voulez témoigner pour notamment tous les jockeys qui ont des accidents de course et leur dire qu'il y a une autre vie.
C'est tout à fait ça. Et puis... aujourd'hui, effectivement, cet accident m'a anéanti et ça a été très, très, très compliqué à remonter la pente. Mais je dirais, à force de volonté, de pugnacité et de courage, on remonte la pente. Et puis après, je dirais, fais de ton rêve une réalité.
Et vous avez pensé rapidement à vous reconvertir dans l'équitation et plus particulièrement le paradressage?
Alors, le paradressage, non. L'équitation, oui, parce qu'encore une fois, c'était ma passion. Donc, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Alors, je suis passé par le basket-fauteuil pour, effectivement, une sorte de réathlétisation, je dirais. Mmh. Et puis, les chevaux sont revenus au grand galop, comme dirait l'autre. Et est revenu le saut d'obstacle dans un premier temps, qui était ma discipline de prédilection. Et cette discipline n'étant pas reconnue à haut niveau, pour le para en tout cas, le para saut d'obstacle, il y avait une discipline qui était le para dressage, qui elle était une discipline olympique avec tous les ans une grande échéance, championnat d'Europe, championnat du monde, jeux paralympiques, et on recommence le cycle sur 4 ans, avec quand même 4 ans pour préparer mission planétaire, 4 ans pour préparer ça. Il faut beaucoup de temps, de moyens et aujourd'hui j'ai vraiment cette chance que beaucoup de Mayennais m'offrent en tout cas par le fait de me soutenir tant dans le financement que dans les côtés pratiques, soins aux chevaux, vétérinaires et autres. Parce que sans eux, aujourd'hui, je ne pourrais pas réaliser ce rêve que d'aller courir ces grandes échéances et mettre tous les moyens de mon côté. Une grande entreprise également comme Enedis, c'est me mettre à disposition du temps pour les entraînements, pour les compétitions. Le conseil départemental de la Mayenne, qui me suit depuis déjà un certain temps aussi, a confiance, a toute confiance en ce que je peux faire briller la Mayenne partout dans le monde. Parce que j'ai eu cette chance aujourd'hui aussi, avec en brillant en tout cas en paradressage, de parcourir le monde entier en allant aux Jeux paralympiques de Tokyo, en faisant les Jeux paralympiques de Londres, en faisant les championnats du monde en Caroline du Nord à Tryon, l'année dernière à Herning au Danemark. Voilà, je parcours le monde, alors non sans mal, hein, puisque c'est bien, on pense qu'on se promène, mais en fait on prend le camion et puis on avale des kilomètres et des heures de camion et des heures de camion. Mais voilà, au bout, il y a cette compétition qui m'anime au quotidien, dont je dois faire briller mon cheval, la Mayenne et la France.
Et donc, si possible, la prochaine échéance aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
J'espère faire briller l'année prochaine à Versailles. Encore une histoire qui est déjà écrite, mais qu'on va continuer à écrire dans l'histoire de France. Mais je l'espère, et puis briller au plus haut point pour moi, pour mes partenaires, pour la Mayenne, pour la France. Donc les Jeux paralympiques de Paris 2024, effectivement, qui se dérouleront dans les jardins du château de Versailles.
Écoutez, c'est royal. On vous remercie pour ce rendez-vous, et puis on essaiera de vous suivre pour présenter cette échéance. Merci Vladimir.
Merci à vous.
Et merci pour cet ultime reportage. On le rappelle, la nuit du handicap à Laval, c'est donc demain samedi, dès l'après-midi, au 6x4 et au collège lycée L'Immaculée Conception. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce vendredi. À 19h, retrouvez sur l'autre radio Dancehall Social Club, suivi à 20h de Tempus Fugit. Et puis ce week-end, notamment, ne manquez pas deux émissions spéciales, l'une à 15h à Olivet à la Voix de Garage, émission spéciale pour l'heure 10 ans, et à 16h30, émission spéciale en direct du festival Les Mouillotins à Saint-Poix. Nous, on revient lundi. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.